Vous écoutez RFI, les 11h en temps universel, 13h à Paris. RFI Midi vous est présenté par Anne Cantner qui est là. Bonjour Anne.
Bonjour Emmanuel, bonjour à tous. 2h30 ensemble pour faire le tour de l'actualité dans le monde avec nos correspondants, avec nos envoyés spéciaux. Nous irons au Kenya, au moins 53 morts après les manifestations violentes d'hier et la répression brutale des forces de l'ordre. Le chiffre vient d'une coalition d'ONG kenyanes, elles sont nombreuses, à dénoncer le choix des autorités de répondre par la force aux revendications de la jeunesse.
Le genre de brutalité que nous avons vu pendant les manifestations, où des balles réelles ont été utilisées alors que la plupart des manifestants étaient armés d'eau, de masques et de foulards, est-ce un usage proportionné de la force que d'utiliser des balles réelles ? Les gens demandent des comptes.
Réaction de la Société kenyane du droit. Nous appellerons notre correspondante à Nairobi tout à l'heure et nous essaierons de comprendre avec notre invité pourquoi les autorités kenyanes se sentent menacées par ce mouvement et pourquoi elles ont opté pour la répression que l'on observe depuis le début de la semaine. Une brutalité des forces de l'ordre sous les yeux du monde entier alors que le Kenya envoie en ce moment des policiers d'élite en Haïti. Après des mois d'hésitation, 200 hommes sont arrivés hier à Port-au-Prince. La population est soulagée de voir ces policiers débarquer, mais attend beaucoup de la force multinationale.
Je suis content, j'aimerais qu'ils se mettent au travail pour combattre les bandits armés. J'espère qu'ils ne vont pas faire comme les précédentes missions de l'ONU qui venaient prendre du bon temps. J'ai besoin de reprendre une vie normale, je ne compte pas quitter le pays, j'ai mon travail ici. J'aimerais que les policiers kenyans et la police nationale, à travers leurs unités spécialisées, travaillent ensemble pour rétablir l'ordre dans le pays, afin qu'on puisse sortir de cette situation.
Reportage à Port-au-Prince à écouter à 13h, temps universel et analyse, avec un expert de l'International Crisis Group. On parlera aussi dans RFI Midi de la campagne pour les législatives en France et de l'inquiétude qui monte chez de nombreux Français, notamment chez les personnes racisées, qui redoutent un gouvernement d'extrême droite. Entretien dans une demi-heure avec le président de l'association SOS Racisme. Et puis la France qui se tourne aussi vers les Jeux Olympiques. Ils commencent dans un mois tout juste et tout n'est pas tout à fait prêt. On fera le point dans quelques minutes. Voilà, vous avez le programme. Bienvenue.
RFI à Port-au-Prince, 89.3 FM.
Et pour commencer, l'essentiel de l'actualité en 5 minutes. Bonjour Gilles Moreau.
Bonjour à tous.
Et on commence donc par ce nouveau bilan des violences au Kenya.
Oui, la répression des manifestations contre la loi de finances hier a fait au moins 53 morts selon la Commission kenyane des droits de l'homme, une plateforme qui regroupe une vingtaine d'ONG. Dans le détail, elle a enregistré 23 morts dans l'après-midi à Nairobi, la capitale, et 30 autres dans la nuit, cette fois à Githurai, une grande ville de la grande banlieue de la capitale où selon cette commission, eh bien, la police a perpétré un véritable massacre.
Des policiers kenyans qui commencent à se déployer en Haïti.
Oui, un premier contingent est arrivé hier dans la capitale Port-au-Prince dans le cadre d'une mission multinationale. 200 hommes et soutien logistique arrivés directement du Kenya. Ces soldats, ces policiers précisément, doivent aider la police haïtienne à rétablir la sécurité dans ce pays ravagé par la violence des gangs. Marine Lebeg, bonjour.
Bonjour.
Sait-on comment se présente cette mission largement soutenue par l'ONU et les États-Unis.
Eh bien, pour l'instant, impossible d'imaginer la forme que va prendre cette force. Nous ne sommes qu'au jour 1 d'une mission qui doit durer un an, selon la résolution approuvée par le Conseil de sécurité de l'ONU. Hier, le Premier ministre haïtien Gary Conille a accueilli l'arrivée du premier contingent avec soulagement. Il a salué pendant une conférence de presse, je cite, une opportunité unique pour rétablir la sécurité dans le pays. Mais Gary Conille n'a apporté aucune précision sur le plan de la mission. Le flou reste donc de mise. Alors, selon certains experts haïtiens en sécurité, il est urgent d'attendre que la force soit entièrement réunie en Haïti avant d'envisager une quelconque opération de terrain. Le Kenya avait proposé d'envoyer 1 000 000 d'hommes avec des soutiens logistiques. Un nouveau contingent doit arriver jeudi pour grossir les rangs des 200 premiers arrivés hier. Et ce n'est pas tout. Le Bénin, le Tchad, les Bahamas, la Barbade et le Bangladesh se sont eux aussi engagés à alimenter cette mission multinationale d'appui à la sécurité. Mais pour le moment, aucune nouvelle de ces pays.
Merci pour ces précisions. C'était Marine Le Bègue en direct dans ce journal. Julian Assange, en route vers Canberra, le fondateur de Wikileaks, a plaidé coupable d'espionnage. C'était dans la nuit devant la justice américaine. Au terme de l'accord signé avec l'administration Biden, Julian Assange est libre de ses mouvements. Il est attendu en fin de journée en Australie, son pays natal. En Russie, un tribunal d'Ekaterinbourg accueille le procès du journaliste américain Evan Gerkovitch. Procès à huis clos dont la première audience vient de se tenir. L'accusé est détenu en Russie depuis 15 mois pour des accusations d'espionnage qu'il rejette. À l'occasion de ce procès, la diplomatie russe invite les États-Unis à, je cite, étudier les signaux qu'elle envoie sur un échange de prisonniers entre les deux pays.
En France, J-4, nous sommes à 4 jours du premier tour des législatives.
Des législatives anticipées dont l'antisémitisme est l'un des grands thèmes de campagne. Le nouveau Front populaire, l'Alliance gauche écologiste en a même fait une priorité, tandis qu'à l'autre bout de l'échiquier politique, le Rassemblement national se targue d'être un bouclier pour les juifs en France. Le RN n'hésite pas à rappeler la position ambiguë de Jean-Luc Mélenchon, le chef de file de la France insoumise, pour discréditer le discours du nouveau Front populaire dont LFI fait désormais partie. Marie Cazadebé s'est rendue dans le quartier juif de Sarcelles, au nord de Paris. Dans cette ville qui abrite une des plus importantes communautés juives de France, la stratégie du RN semble fonctionner, en tout cas, elle déstabilise un électorat historiquement à gauche.
Une boutique de vêtements dans le quartier appelé le Petit Jérusalem. Ces deux gérantes résument bien la position des électeurs croisés ce jour-là à Sarcelles.
On ne veut pas que Mélenchon y passe, c'est sûr et certain.
Tout sauf Jean-Luc Mélenchon. Une phrase entendue des dizaines de fois et qui se traduira dimanche par un rejet du nouveau Front populaire.
On est tous perdus parce que voilà, on a perdu confiance.
Est-ce que vous aviez une habitude de vote ?
Oui, j'ai une habitude de vote, mais là je suis vraiment perdue.
Je peux la connaître ?
Non.
En tout cas, vous ne voterez pas la même chose que d'habitude ?
Ça, c'est clair. Moi, je ne suis pas forte en politique, hein, mais on m'a dit le macroniste, ce qu'il y avait avant. Même si ce n'est pas top, mais au moins, ce n'est pas catastrophique.
Pour ces deux femmes, le vote RN ne semble pas une alternative. Mais elle l'est pour un bon nombre d'électeurs juifs de Sarcelles, selon le président de la communauté, Moïse Kaloun, qui déplore une instrumentalisation du thème de l'antisémitisme dans cette campagne.
N'oublions pas que le 7 octobre, ils ont été un peu plus loin que le soutien. Ils ont été vers la compréhension. Quelque chose de nouveau que le Rassemblement national n'avait pas l'habitude de faire. Normalement, ça ne doit pas être dans un enjeu politique ou électoral. Mais c'est juste un effet de caressage vers l'électorat.
Un message qu'il tente de transmettre à tous les électeurs perdus qu'il croise dans son quartier.
Reportage à Sarcelles de Marie Cazadebé. Alors, à l'approche du premier tour des législatives, on apprend aussi que le GUD, les Remparts, ainsi que deux autres structures d'ultra-droite basées à Lyon ont été dissous ce matin en Conseil des ministres. Enfin, un mot de football à l'Euro, c'est l'ultime journée de la phase de groupe. À suivre surtout les matchs du groupe E, où fait inédit, les quatre nations, Belgique, Ukraine, Slovaquie et Roumanie, ont le même nombre de points. Ce soir, les matchs Belgique, Ukraine et Slovaquie. Qui Roumanie dans ce groupe.
Merci Gilles. Et à tout à l'heure, nos auditeurs vous retrouvent dans 2 heures pour faire le point sur l'actualité internationale. Et nous parlons de l'actualité en France jusqu'à 11h30 temps universel.
RFI, la France à midi.
Et de la campagne pour les élections législatives que vous évoquiez à l'instant, Gilles. Le Rassemblement national est toujours donné largement en tête par les sondages avec 36% des intentions de vote pour le premier tour dimanche. Le succès de l'extrême droite se confirme, se renforce dans les zones rurales et dans le nord de la France. La moitié des députés du Pas-de-Calais, par exemple, sont membres du Rassemblement national sur ces terres autrefois socialistes. D'ailleurs, le Parti socialiste n'a pas encore renoncé. Il a insisté pour présenter de nombreux candidats pour ces législatives anticipées, avec toutefois des espoirs limités. Reportage Aurélien Devernois.
Si vous avez des questions, n'hésitez pas.
Non, moi c'était juste pour commencer la classe moyenne, parce que bon, c'est toujours pour ceux qui en font pas, quoi.
Nous, on est de la gauche du travail. Le PS, c'est vraiment la gauche du travail.
Cet habitant d'Afringues offre une moue dubitative aux arguments d'Aurore Pajot en pleine séance de porte-à-porte. Aux élections européennes, près d'un électeur sur deux a voté Rassemblement National dans ce village et la candidate socialiste, qui a grandi à Nantes et vit à Paris, arrive avec quelques handicaps, reconnaît Dominique, inlassable militant PS de la circonscription.
On l'a mis comme ça, elle n'est pas connue. On va faire tout pour la faire connaître.
Terre de gauche pendant des décennies, la vague RN a recouvert peu à peu le Pas-de-Calais et ne semble pas faiblir.
On a fait les procurations pour...
Ah, c'est super.
Ce vote par procuration, ce sera un bulletin Christine Engrand. Sur le marché de Guines, un peu plus au nord, la députée sortante RN est en terrain conquis. Son parti y bat des records, mais elle n'oublie pas de rappeler les récents succès.
Sur le tract, qu'est-ce qui est marqué? C'est votre résultat aux européennes, c'est ça?
C'est ça, 46%. Oui, je suis sereine, mais je vais continuer à labourer le terrain.
Car en 2022, le RN n'est passé que d'un souffle dans la circonscription. 56 voix seulement ont départagé Christine Engrand de sa rivale macroniste Brigitte Bourguignon. Celle-ci a décidé de retenter sa chance, mais son optimisme vacille.
Je désespère de cette situation parce que vous l'avez vu aux européennes, on montrait que M. Bardella foutait rien. C'est pas grave. Tout glisse comme sur des plumes.
Mais si Brigitte Bourguignon affiche son incompréhension, notre militant socialiste Dominique a une explication. Pendant des années, elle était une figure du PS local avant de changer d'écurie pour garder son siège de député en 2017.
On croyait vraiment qu'elle était recréée socialiste et puis elle s'avoue avec M. Macron et on l'a mal pris, on s'est senti trahi.
Résultat, de nombreux électeurs socialistes ont refusé de voter Bourguignon en 2022. L'arrivée d'Aurore Pajot sonne donc comme une revanche pour ceux qui ont gardé le cœur à gauche à l'image d'Anne-Sophie et de sa mère Martine, autre habitante d'Afringues.
J'avais dit que je ne militerais plus, mais...
Et là, vous ressentez le besoin de militer.
Moi, si vous avez besoin de quelqu'un pour mettre des tracts dans les boîtes aux lettres, pour vous aider...
Mais complètement.
Un bouquet de roses du jardin et deux votes promis plus tard, Aurore Pajot a le sourire. Même si elle le sait, la bataille sera rude et en cas d'élimination, pas d'hésitation.
Moi, mon but, c'est vraiment de faire barrage contre l'extrême droite. Donc j'appellerai à voter à ce qu'il n'y ait aucune voix pour l'extrême droite.
Dominique, lui, pense déjà à l'avenir de sa nouvelle protégée.
Dans les années à venir, je pense qu'on peut avoir une personne socialiste au pouvoir. C'est ce qu'on espère. On travaille pour ça, d'ailleurs.
Dans le Pas-de-Calais, le Parti socialiste espère récupérer 1 à 2 sièges lors de ses législatives anticipées. Le début de la reconquête espère le Parti à la Rose, qui détenait encore 10 circonscriptions sur 12 en 2017, contre une seule en 2022.
Reportage d'Aurélien Devernoy dans le Pas-de-Calais en France. En plus des candidats du Nouveau Front Populaire, du Rassemblement National et de la mouvance présidentielle que vous avez entendu dans ce reportage, 3 autres tenteront d'être élus députés. Giovanni Frattini, candidat indépendant, Éric Oudéyer pour le parti de droite Les Républicains et Laure Bourrel pour Lutte Ouvrière. La gauche doit convaincre bien au-delà du seul nord de la France et c'était l'objectif hier soir de Manuel Bompard lors du débat qu'il a opposé au Premier ministre et au leader du Rassemblement National sur la chaîne de télévision TF1. Près de 2 heures de discussion, parfois animée, entre Gabriel Attal et Jordan Bardella. Le représentant de la gauche, lui, a longtemps semblé en retrait avant d'intervenir de manière plus énergique sur la question de l'immigration. Quel bilan en tirer ? Où en est la campagne pour la coalition de gauche? Question posée à Pouria Amirchahi, candidat du Nouveau Front Populaire à Paris. Il était l'invité ce matin de Nathalie Amar. Bonjour Pouria Amirchahi.
Bonjour.
Alors on a vu hier soir un Manuel Bompard se tenir quasiment à égale distance de ses deux concurrents, attaquer à la fois le bilan du gouvernement sur l'éducation, sur les retraites et les projets de l'extrême droite sur l'immigration, le droit du sol. Dans cette campagne, quel est le principal adversaire de la gauche?
C'est évidemment le Rassemblement National, mais si on a comme danger immédiat le Rassemblement National, c'est parce que Emmanuel Macron, le président de la République, précipite le pays dans ce désastre incertain où il rend possible, par sa dissolution, l'arrivée au pouvoir de l'extrême droite. Il en est comptable, pas simplement parce que il joue au bonto, il a joué au poker, comme on a dit, mais parce que le résultat immédiat, au-delà de la stupeur et de la stupéfaction de nos concitoyennes, de nos concitoyens, c'est aussi une rancœur sur ce qui a été fait depuis tant d'années. Je ne dis pas, moi je ne suis pas du genre... à dire qu'il a tout raté, mais enfin globalement, c'est une brutalisation de la société. On l'a vu, ça a commencé avec les gilets jaunes, ça a fini avec les révoltes sociales urbaines après la mort de Naël, et tout ça, ça a été marqué souvent de lois sociales ou antisociales. Très dure, la dernière en date était la loi sur la réforme des retraites, qui oblige des gens à travailler 2 ans de plus, et l'infâme loi sur l'immigration, qui était un premier pas vers le renoncement d'Emmanuel Macron aux valeurs qu'il prétendait défendre en 2017, et ce pourquoi elle a été élue. Donc on est dans une situation complètement dingue, si je peux me permettre.
Ouais. Est-ce qu'en cas de triangulaire, malgré tout, vous nous dites l'extrême droite est notre principal adversaire, mais il y a beaucoup de ressentiment vis-à-vis de la majorité, est-ce qu'en cas de triangulaire, la gauche se désistera systématiquement en faveur d'un candidat macroniste, il s'agit de faire barrage au Rassemblement National. Est-ce qu'il y aura une consigne de cet ordre-là au soir du premier tour, d'après vous?
Moi, je vous dis la même chose que Marine Tondelier, qui est la secrétaire nationale des écologistes. Je ne bargaine jamais avec le danger quand il est devant nous. Donc si je ne suis pas personnellement en situation de me présenter et de gagner dans une triangulaire, alors évidemment, j'appelle à faire en sorte que les démocrates puissent l'emporter. Mais vous voyez bien que vous avez soulevé l'équation compliquée. Qui rend difficile cette mobilisation? C'est Emmanuel Macron lui-même et ses affidés qui, franchement, insultent du soir au matin des candidats démocrates qui, dans tout le pays, ne font rien d'autre que mener campagne en employant des mots graves et parfois grandiloquents. Il a même parlé de guerre civile. Alors qu'on m'explique en quoi construire des hôpitaux, c'est préparer la guerre civile. En quoi mieux rémunérer les gens, c'est préparer la guerre civile. En quoi investir dans la culture, c'est préparer la guerre civile. Donc il est d'une irresponsabilité inouïe.
Pour Yamir Chahi, vous faites avec cette élection votre retour en politique, hein, puisque vous aviez quitté le PS après avoir été député des Français de l'étranger jusqu'en 2017. Vous êtes aujourd'hui investi par les écologistes parce que leur candidat Julien Bayou est visé par une enquête pour harcèlement moral et qu'il s'est retiré. Vous vous retrouvez dans cette coalition côte à côte avec François Hollande. Lui est revenu aussi compte tenu de la gravité de la situation comme candidat en Corrèze. Cette coalition peut-elle tenir? On a compris l'urgence de l'unité, l'urgence de trouver des accords dans les 577 circonscriptions et de se mettre d'accord sur un programme. Mais est-ce que sur la longueur, cette coalition peut tenir? Alors, la majorité dit, vous le savez, elle va de Philippe Poutou à François Hollande, il y a quelque chose qui ne va pas.
Oui, pour eux, ça ne va pas, mais c'est ce qui les dérange. Très sincèrement, le fait que des personnages qui peuvent effectivement, sur le même échiquier politique, à gauche, avoir des approches politiques différentes se réunissent, c'est qu'ils ont compris la gravité de la situation. C'est vrai que c'est cocasse, vous avez rappelé que j'avais moi-même quitté le Parti Socialiste pour des raisons de désaccord, notamment avec la politique conduite par François Hollande. Bon, et se retrouver là, ça veut dire que chacun a pris sa part. La question que vous posez, c'est est-ce que ça va tenir? Il faut que ça tienne. Qu'est-ce qui va permettre que ça tienne? D'abord, si on s'en tient déjà au programme. Pas moins, surtout pas, et on n'est pas obligé d'aller plus tout de suite. On a un programme qui est construit, qui est financé et qui touche à tous les domaines de la vie. Je n'ai pas le temps en...
Qui est un peu contesté aussi par les économistes, le SMIC à 1600 euros dont on dit qu'il pourrait créer du chômage.
Par des économistes.
Par des économistes, par certains économistes.
Voilà, chacun ses économistes.
Mais il est chiffré, c'est vrai.
Alors, il est chiffré et surtout je vous donne une indication importante pour ceux qui peuvent appréhender une telle mesure. Les petites entreprises, par exemple. Il y a une compensation intégrale, c'est simple. Et il y a des mécanismes de compensation intégrale. Comment on les finance? En revenant sur les abandons de recettes qu'Emmanuel Macron a opéré ces dernières années. Mais je reviens sur votre question.
Oui, et la condition, donc, c'est un, tenir le programme, deux...
La deuxième, c'est faire vivre cet extraordinaire élan de fraternité et de sororité qui traverse aujourd'hui les femmes et les hommes qui, du jour au lendemain, après l'annonce stupéfiante d'Emmanuel Macron, se retrouvent sur des marchés, à la sortie des écoles, à parler à des gens. Pour essayer de, évidemment, les convaincre d'aller voter, mais se parlent entre eux aussi.
Mais est-ce qu'à cet élan, il ne manque pas aujourd'hui une incarnation? Est-ce que, par exemple, hier, pour vous, Manuel Bompard aurait gagné des galons de premier ministrable? On sait, et on va pas y revenir dans le détail, mais que cette union de la gauche se divise sur la personnalité de Jean-Luc Mélenchon, sur le petit jeu qu'il joue à dire « je veux gouverner la France, mais finalement je ne m'impose pas », etc. Qui pour incarner ce nouveau Front populaire pour Yamir Chahi?
Alors si je vous dis ce en quoi je crois que l'incarnation... du collectif, c'est le nouveau Front populaire lui-même jusqu'aux élections, vous allez me dire, c'est court comme réponse. Je crois pourtant dans le fait que...
C'est court parce qu'en face, il y a deux incarnations. Jordan Bardella qui se positionne pour Matignon depuis des mois et Gabriel Attal, bon, on ne sait pas, mais en tout cas, c'est lui qui conduit la campagne pour le camp présidentiel.
Alors, dans le panel des responsables politiques, femmes et hommes, qui ont conduit les négociations, construit ces négociations, dans les investitures comme dans le programme, vous avez franchement 5-6 personnes qui sont tout à fait capables d'assumer une telle responsabilité. Je ne rentrerai pas là-dedans, madame. Vraiment, je ne rentrerai pas là-dedans. Parce que ce n'est que mettre 10 centimes de plus dans la machine à personnalisation de la vie politique. Et je comprends la difficulté, vous avez raison.
Et comment est-ce qu'on les choisit? Alors, parmi ces 6 personnes, comment est-ce qu'on les choisit? Il y a eu plusieurs hypothèses. L'hypothèse, le camp qui a le plus de députés au soir du second tour
fait une proposition. C'est possible, oui.
Olivier Faure, chez les socialistes, dit il faut un vote des députés nouvellement élus pour désigner la personne qui sera susceptible d'occuper Matignon.
C'est possible aussi. De toute façon, on voit bien qu'il faudra une personnalité qui fédère, qui soit capable de gouverner tout de suite, qui pense à sa relation et l'articulation de sa relation avec le président de la République. On est quand même la 6e puissance du monde. Il y a quand même des choses à mettre en place pour rassurer aussi toutes celles et ceux qui nous regardent. Et vous savez à RFI combien c'est important. Et puis, quelqu'un qui soit, ou quelqu'une qui soit tout à sa tâche, vraiment, en relation permanente avec sa majorité parlementaire, parce que je crois que le nouveau Front populaire, dans la durée, ne pourra gagner que s'il reste connecté avec la société mobilisée qui a nourri une partie du programme et qui est en attente et qui nous a dit déjà en 2017, déjà en 2022, arrêtez de nous convoquer tous les 5 ans ou que quand il y a un drame, ce qui s'est passé les 2 dernières fois. Écoutez-nous un peu. Et on a dans tous les domaines de la vie, la lutte contre les violences sexistes et sexuelles, dans les domaines des solidarités nouvelles, dans extraordinairement de champs de la solidarité, des expertises citoyennes qui nous nourrissent, et c'est là-dessus qu'il faudra compter.
Pouria Amirshahi, candidat du Nouveau Front Populaire à Paris, il était l'invité ce matin de Nathalie Amar.
Les Jeux Olympiques Paris 2024, avec RFI.
Les Jeux Olympiques qu'on aurait presque oubliés avec cette campagne pour les législatives anticipées en France et le chaos que ça a provoqué chez un certain nombre de partis et de mouvements politiques. Les Jeux commencent dans un mois, tout juste. Le 26 juillet, ce sera la cérémonie d'ouverture sur la scène. Bonjour Baptiste Coulon.
Bonjour Anne, bonjour à tous.
Plus qu'un mois donc avant l'entrée en scène de danseurs et d'athlètes, avant le début aussi de 2 semaines de compétition. On va faire le point sur les derniers préparatifs. Qu'est-ce qui est au point, qu'est-ce qui ne l'est pas? Et on commence par les points d'interrogation. Il y en a encore un certain nombre et qui concernent encore et toujours la scène.
La scène où se déroulera à la fois la cérémonie d'ouverture et les épreuves de natation. Oui, mais voilà. Après les fortes pluies du mois de juin, le débit de la scène s'est accéléré. Il est encore très élevé actuellement. Résultat, les autorités ont été contraintes de repousser une nouvelle répétition prévue ce lundi. Un débit trop fort le jour J, ça poserait aussi un sérieux problème pour la bonne exécution à la seconde près de la cérémonie d'ouverture.
L'autre problème, Baptiste, c'est encore et toujours la pollution du fleuve.
Le dernier relevé, publié par la mairie de Paris il y a 5 jours, le montre très clairement. La Seine est impropre à la baignade en raison de la météo capricieuse des derniers jours. L'eau de pluie pénètre dans les égouts avant de se déverser dans le fleuve. Résultat, des bactéries en trop grande quantité, au-delà des seuils fixés par la Fédération internationale de natation.
Mais les autorités, elles, répètent qu'elles sont confiantes pour le jour J. Est-ce qu'elles sont confiantes aussi en ce qui concerne les transports?
Oui, avec la sécurité, c'est l'autre enjeu pour la tenue des JO et le bon accueil des spectateurs. Ils seront 15 millions au rendez-vous. Leur prise en charge dans les transports parisiens est un immense défi pour la RATP, le réseau de transport public de Paris. À un mois de l'événement, la RATP répète, elle aussi, des entraînements depuis une nouvelle salle de contrôle où l'on régule le flux de voyageurs pour éviter l'engorgement du métro. Les effectifs seront doublés et portés à 5000 agents dans les stations pendant les Jeux.
Et dans ce contexte, une ligne de métro parisienne, la ligne 14, a été au cœur de l'actualité ces derniers jours.
Oui, c'est la bonne nouvelle de ces derniers jours en matière de transport pour une ligne clé dans le dispositif des Jeux. La voilà prolongée des deux côtés, 100% automatique. Elle relie notamment et désormais le centre de Paris à l'aéroport d'Orly au sud en 20 minutes. Essentiel là aussi pour le transport des touristes jusqu'aux infrastructures dans la capitale.
Alors les infrastructures, parlons-en justement. Où en sont les chantiers, Baptiste ?
Ils avancent, pas d'inquiétude à ce niveau. On est dans les temps. Certaines infrastructures éphémères sont même sorties de terre depuis quelques semaines déjà. C'est le cas notamment de ce stade de 13 000 places qui accueillera les épreuves de beach volley sur le Champ de Mars près de la Tour Eiffel. Place de la Concorde où aura lieu le breakdance, construction toujours en cours. Travaux terminés en revanche pour le stade nautique olympique de Vers-sur-Marne, c'est non loin de Paris. Et c'est là qu'auront lieu les épreuves d'aviron et de canoë.
Et maintenant il va falloir tester tout ça.
À un mois des Jeux, s'assurer que tout va bien à travers des test events. Autrement dit, tester en format compétition l'infrastructure avec de vrais athlètes qui font des observations, des retours. Test réussi par exemple pour la piste d'escalade il y a quelques jours, et celle d'athlétisme au Stade de France, piste posée fin mai, testée hier par les athlètes, une piste de couleur violette censée apporter un surplus de performance avec son revêtement dernière génération. Les athlètes l'ont approuvé, il ne reste plus qu'à performer.
Merci Baptiste Coulon. Notre question d'environnement ce mercredi, est-ce que le développement accéléré de la culture sous serre pourrait aider à rafraîchir la planète ? Ça peut paraître un peu incongru, mais cette question ne vient pas de nulle part, Simon Rosé. D'abord parce qu'il y a de plus en plus de serres et ensuite parce que dans les régions où l'on cultive sous serre, il fait moins chaud que dans les environs.
Et oui, le monde regorge désormais de serres où l'on cultive toute l'année des fruits et légumes en dépit des saisons. Et si on les mettait côte à côte, Anne, ça ferait une superficie d'1 300 000 hectares. Et comme vous le disiez, c'est un secteur en plein essor. On compte aujourd'hui 40 fois plus de serres qu'il y a 40 ans. La moitié d'entre elles se trouvent en Chine.
Mais alors, quel est le rapport avec la température de l'air et le changement climatique ?
Eh bien, c'est à cause de leur pouvoir réfléchissant. On appelle ça l'albédo, si on veut être précis. Le toit des serres, il est souvent fait en verre ou en plastique qui réfléchissent la lumière du soleil vers le ciel, ce qui atténue le réchauffement de la basse atmosphère localement. On pourrait se dire que l'effet il est anecdotique, ce ne sont que des serres après tout, mais les conséquences elles sont bien réelles. Des chercheurs l'ont mesuré en Andalousie, dans le sud de l'Espagne. On appelle cette région le verger de l'Europe. 3 millions de tonnes de fruits et légumes chaque année, produits sur 20 000 hectares, dont les deux tiers sont couverts de plastique. Eh bien, la température là-bas a diminué de 0,7 degrés, tandis qu'elle se réchauffait d'un degré dans les régions aux alentours, moins 0,7 d'un côté, plus 1 de l'autre. On estime donc que la présence des serres entraîne un refroidissement refroidissement d'1,7 degré. Refroidissement local, certes, mais très loin d'être anecdotique.
Et c'est un argument supplémentaire pour les promoteurs de la culture sous serre.
Et oui, présentée comme moins gourmande en ressources et en surface que les cultures classiques, plus résistantes aux aléas de la météo. On le disait, cette méthode se développe tout autour du monde. Alors si en plus ça refroidit l'atmosphère, c'est royal. Mais évidemment, il y a un mais, c'est jamais simple, car la culture sous serre n'est pas aussi rose que le portrait qu'en font ses promoteurs, notamment sur l'argument de la sobriété. La concentration de culture qu'elle implique a de lourdes conséquences sur la ressource en eau. Si on reprend cet exemple de l'Andalousie, c'est par exemple toute la zone humide aux alentours qui en paie le prix. Elle est endommagée et c'est pourtant une zone de repos majeure pour de nombreuses espèces d'oiseaux migrateurs.
Et puis on a pu voir aussi, Simon, une autre conséquence dans la région, c'est le plastique des serres qui se dégrade et qu'on retrouve partout dans la nature.
Exactement, 30 000 tonnes de déchets plastiques dans cette région chaque année. On parlait de la Chine, des chercheurs ont déterré jusqu'à 200 kilos de microparticules de plastique par hectare dans les régions où la culture sous serre est la plus développée. C'est pas sans conséquence puisqu'on retrouve ce plastique ensuite dans tout l'écosystème et même dans les fruits et légumes cultivés. Difficile donc dans ces conditions de considérer les serres comme un atout contre le réchauffement climatique. Même si leur présence en nombre a un effet rafraîchissant local, c'est vrai, mais de la même manière que peuvent l'avoir les toits des bâtiments en ville s'ils sont peints de couleur claire pour là aussi renvoyer la lumière du soleil avant qu'elle ne chauffe le sol.
Des serres contre l'effet de serre, pas si sûr donc. C'était notre question d'environnement. Merci Simon Rosé. Et nous parlons maintenant de cinéma, d'un film qui sort cette semaine dans les salles en France. Les pistolets en plastique de Jean-Christophe Meurice. Il s'inspire d'un des faits divers qui ont le plus marqué ces dernières années en France. L'affaire Xavier Dupont de Ligonnès, toujours porté disparu après avoir tué sa femme et ses quatre enfants en 2011. Jean-Christophe Meurice parle de son film, de ce tueur rebaptisé Paul Bernardin, à Elisabeth Le Quéré et il nous emmène dans son univers.
Mes chers amis, nous sommes rassemblés ce matin pour célébrer et récompenser le travail de Léa Blanchard et Christine Valderel dans leur mission en charge de l'affaire Paul Bernardin, qui mettait à jour quatre cadavres, ceux de sa femme et de ses trois enfants, et la disparition de
Bernardin, votre voisin.
Jean-Christophe Meurice, bonjour.
Bonjour.
Pour écrire les pistolets en plastique, vous êtes parti d'un fait divers.
Oui, exactement, je suis parti de l'histoire librement inspirée de Xavier Dupont-Ligonnès. Enfin, plus particulièrement de Guy Joao, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais en octobre 19, le faux qui a été arrêté à l'aéroport de Glasgow. C'est là, pour moi, il y avait un potentiel cinématographique parce que je me suis dit comment ce pauvre monsieur pré-retraité de chez Renault qui allait rejoindre sa compagne à Glasgow a été tout d'un coup l'ennemi public numéro 1 de toute l'Europe. Quoi. Et en plus, quand on interroge la police écossaise, on leur demande mais pourquoi vous avez arrêté ce pauvre monsieur quoi. Et ils répondent bah voilà, chez nous on a des profilers, des indices qui sont notés de 1 à 6 étoiles comme nous on note les chauffeurs Uber, et il y en a un qui nous a appelé qui avait le max du max, il avait 6 étoiles, donc c'était vraiment le champion du monde des profilers. Il nous a dit j'ai Xavier Dupont-Ligonnès devant moi. Donc je me suis dit un profiler aussi loser, c'était vraiment un vrai début de film quoi. Et effectivement après je me suis dit tiens, et si le vrai était encore vivant, où est-ce qu'il serait?
Des criminels, des gens qui ont commis des crimes abominables, malheureusement, il y en a beaucoup. Donc, est-ce que vous comprenez cette obsession autour de Dupont de Ligonnès?
C'est vrai que on se pose là, pourquoi autant de fascination pour lui? Il a plus de fans, il y a plus de fans qui recherchent la piste de Ligonnès que des lecteurs de Macron. Donc, il y a quelque chose d'étrange. C'est un amusement, mais c'est vrai qu'on se demande pourquoi autant de fascination pour cet ignoble assassin. C'est une vraie question à laquelle j'essaie de répondre dans le film.
Vous voulez boire quelque chose?
Pourquoi pas?
Eh bien, on va prendre un mojito.
Moi, demain, je veux ressembler à Scarlett Johansson. Eh ben, c'est parti.
Vamos a la fiesta y vamos a bailar.
Jean-Christophe Meurice, vous dites ses fans comme si c'était une rockstar, ce qu'il est d'une certaine façon. Votre film suit trois pistes et l'une de ces trois pistes, c'est celle de deux fans, donc Christine et Léa, qui sont enquêtrices sur le web. Qu'est-ce que ça veut dire en fait?
Eh ben, ça existe de plus en plus, c'est-à-dire avant... On faisait du sport le week-end, enfin toutes sortes d'activités, du ping-pong, enfin je sais pas.
Du bricolage.
Oui, la chorale. Mais maintenant, on recherche les disparus. Léa et Christine, hein, mes deux héroïnes, elles veulent s'extirper de leur quotidien pour la grande aventure, de grandes sensations. Quoi.
Est-ce que vous, Jean-Christophe Meurice, vous comprenez, forcément vous allez me dire que oui, puisque vous ne filmez que ça, Quelle est la nature du plaisir à filmer les monstres ?
Eh bien, ça, c'est ma tasse de thé. Voilà. Je pense que je m'ennuierais beaucoup à écrire des personnages sympathiques, gentils. Enfin, voilà, je pense que ça fait partie déjà de mon goût, parce que ça nous amène à explorer les recoins obscurs de notre humanité. Donc, et ils sont nombreux.
Et vous filmez les monstres sous la forme d'une comédie. On se pose quelles questions au moment de l'écriture ?
Alors, je ne me pose pas trop de questions, j'essaye d'être dans un état d'émotion. Et pour moi, le rire est important, le rire est noble, il est notre fusible. Il est notre catharsis.
Jean-Christophe Meurice, merci beaucoup.
Merci à vous.
Le réalisateur Jean-Christophe Meurice, dont le film Les pistolets en plastique sort cette semaine dans les salles de cinéma en France. Il était au micro d'Elisabeth Le Quéré. Merci à tous d'être avec nous sur RFI.